C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coudero et les minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Diable, mais je peux pas m'en empêcher. assez pour me priver. J'attendrai en cruel silence que l'heure du thé soit bien passée, en espérant la délivrance de pouvoir tout lui donner. Je veux pas danser avec le diable, mais je peux pas m'en empêcher. Je sens en moi grandir une flamme qui entre un biais et un péché. Je veux pas serrer la main du diable, mais je peux pas m'en empêcher. Avec le diable, mais je peux pas m'en empêcher. Je sens en moi grandir une flamme qui entre à lui et à pêcher. Je vais serrer la main du diable, mais je peux pas m'en empêcher.
Alors, chers amis auditeurs du mouvement Action Justice, bonjour. Bienvenue encore une fois à notre rendez-vous mensuel portant, je le rappelle, sur les nombreuses injustices générées par le système de protection de la jeunesse au Québec. Mon nom est Gilles Boivin, je suis l'un des membres fondateurs et président de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, communément appelée CFDPJ. Et à ce titre, c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous et de seconder ou remplacer le dernier vendredi du mois, M. Hadj Zitouni, dans l'animation de différents sujets touchant notre thématique. Avec moi pour m'accompagner ce matin, une voix devenue familière à cette émission, celle de M. Yann Stoll, aussi membre de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, et référence historico-politico-légale en protection de la jeunesse. Bonjour, bonjour M. Stoll.
Bonjour, Denis, à tous.
Nous aurons aussi la chance au cours de l'émission d'avoir un entretien téléphonique avec Mme Luce Bouchard, présidente de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. De plus, nous aurons aussi aujourd'hui le privilège de nous entretenir avec M. Bernard Favreau, auteur du livre « Janus, l'autre visage du système québécois de protection de la jeunesse ». Est devenu une référence incontournable dans le domaine au Québec. Or, dans quelques minutes, j'aurai l'occasion de leur laisser la parole et les interroger sur notre sujet du jour, c'est-à-dire quel est l'autre visage du système de protection de la jeunesse au Québec. Mais auparavant, j'aimerais souligner que si vous désirez nous envoyer vos commentaires, nous faire parvenir vos questions ou obtenir de l'information concernant une problématique, que vous pourriez vivre, vous pouvez le faire en nous écrivant à DPJ Radio Centreville. Donc DPJ Radio Centreville à commercial hotmail.com ou par la poste si vous le désirez à SAVDPJ, donc SAIVDPJ. Case postale 193-193, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, J8C3A3. Donc maintenant, avant d'entendre la réponse de nos invités à notre question du jour, arrêtons-nous pour une petite pause et à tout de suite.
Sur les problèmes de société, coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un
bénévole, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Alors, nous sommes de retour avec la question du jour. Quel est l'autre visage du système de protection de la jeunesse au Québec? Alors, en effet, on entend souvent dire que la DPJ protège les enfants maltraités, qu'elle peut intervenir pour aider les parents ayant certaines difficultés avec leurs jeunes, qu'elle aurait besoin de plus d'argent et de ressources pour mener à bien son œuvre, qu'on ne retire de leur famille que les enfants qui le nécessitent, que l'on fait une analyse sérieuse de la situation avant de retirer un enfant. Que les grands-parents et la famille élargie sont mis à profit avant le placement d'un enfant en centre d'accueil ou en famille d'accueil, que le système de protection de la jeunesse au Québec est un système somme toute vertueux et qui fonctionne bien. Évidemment, ça peut susciter plusieurs réactions. Qu'en pensent nos invités? Accueillons d'abord M. Bernard Favreau. Monsieur Favreau, bonjour.
Bonjour.
La santé est bonne?
Oui, 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 ça se maintient.
Très bien. Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Or, Monsieur Favreau, vous avez entendu un petit peu la question du jour et mon propos.
Oui.
Je suis heureux de vous avoir avec vous et nous aurons l'occasion de vous entendre dans quelques instants. Je vais accueillir maintenant Madame Luce Bouchard.
Oui, bonjour.
Bonjour, Madame Bouchard. Ça va bien, vous aussi?
Ah oui, oui.
Oui, heureux de vous avoir avec nous aussi. Et puis, je serais très heureux aussi de vous entendre sur le sujet, particulièrement. Monsieur Favreau, d'abord.
Oui.
Vous avez déjà écrit que notre système de protection de la jeunesse était un Janus. Que vouliez-vous dire?
je veux dire qu'il y a deux visages. Il y a le visage qu'on dit que devrait être le système de protection de la jeunesse, mm-hmm. et puis quand on jette un regard un petit peu attentif et un peu critique sur la réalité, on s'aperçoit que le devoir de la DPJ est vraiment mal accompli. Mm-hmm. C'est-à-dire que les clients de cette DPJ souffrent.
Mm-hmm, je comprends.
Assez gravement de la façon dont cette loi, qui en soi n'est pas méchante, est mal appliquée. Et c'est l'application de la loi qui surtout fait mal aux familles et aux enfants.
Mm-hmm, qui causera problème.
Et probablement aussi que cette loi-là donne trop de pouvoir à la DPJ. Elle peut aller disséquer à tort et à travers, faire ce que j'appelle, moi, des parentectomies. C'est couper l'enfant de sa famille et de ses racines pour tenter, soi-disant, de l'implanter, de lui faire faire de nouvelles racines ailleurs, alors qu'on sait fort bien qu'à l'âge de 18 ans, cet enfant-là est largué et laissé à ses propres pouvoirs, ses propres forces, s'il en a reçu. Est-ce qu'il a été bien adapté, bien préparé à assumer cette responsabilité-là? J'en doute beaucoup.
On peut en douter, effectivement. Si notre système de protection de la jeunesse possède un visage à deux faces, pouvez-vous nous en donner des exemples de ces deux faces-là?
Il y a la face, évidemment, de ce qu'il doit être, de ce qu'on dit qu'il est. Mm-hmm. On dit qu'il protège vraiment les enfants. Alors que quand on va y voir dans la réalité, il y a beaucoup d'enfants qui ont l'air à servir davantage les intérêts des employés et du système que leurs propres intérêts. Mm-hmm. Ils sont davantage laissés à eux-mêmes ou encore ils sont plus mal servis en étant arrachés à leurs racines, à leur famille et plantés ailleurs. Alors qu'on devrait les aider plutôt à s'adapter à des situations qui, s'ils sont difficiles, ont besoin d'aide un petit peu. Et cette aide-là, à mon point de vue, n'est pas suffisamment apportée aux familles ni aux enfants. On va trop rapidement vers la parentectomie.
D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on n'aide pas suffisamment les parents. On n'intervient pas suffisamment pour aider les parents avant le retrait de l'enfant de leur famille.
Exactement. Et le retrait, ça doit être un dernier recours parce que, à mon point de vue, c'est un geste très sérieux et même ce que j'appellerais de grave quand on enlève un enfant à sa famille. Et surtout, quand on se dit, présentement, là, c'est à la mode au niveau de la DPJ, c'est dit, faut faire des plans de vie le plus vite possible à l'enfant. Mm-hmm. Ça veut dire l'enlever et ne pas travailler très fort pour qu'il puisse retourner le plus tôt possible dans sa famille. Mm-hmm. On l'enlève et puis on le place dans une famille qu'on appelle d'accueil et que moi, je qualifie pas toujours de famille d'accueil. Souvent, ce sont des familles mercenaires. La preuve, c'est si l'enfant ne cadre pas bien, si l'enfant n'est pas suffisamment docile, eh bien, on remet son bagage dans le sac de plastique noir et on le retourne à la DPJ qui va tenter sa chance ailleurs.
Oui. Donc, ça a beaucoup d'impact. Le fameux plan de vie, en fait, est un plan de vie qui est comment je pourrais dire ça? En fait, on efface l'ancien plan de vie pour un nouveau plan de vie, mais qui est loin possiblement d'être adapté aux besoins de l'enfant.
Et c'est ça. Et ensuite, faut se demander aussi pour qui on se prend pour faire des plans de vie pour les autres.
Effectivement.
On se prend. Parce que chacun a droit à participer à l'élaboration de son plan de vie. Chacun a droit à des choix, chacun a droit à des options. Et moi, ce qui me horripile beaucoup, c'est quand on invoque comme pseudo-problème un manque de loyauté, un défaut de loyauté.
Oui.
Et que l'enfant est obligé d'aimer son père et sa mère de la même façon. Qui dit qu'il est obligé d'aimer le voisin ou d'aimer son cousin, sa cousine de la même façon? L'enfant a droit, comme toute personne humaine, intelligente le moindrement, à faire ses choix et à vouer la part de son amour à qui il veut.
C'est donc vrai ce que vous dites. On parle même de troubles de l'attachement. Hein?
Exactement, beaucoup. Oui. Ça c'est l'argument invoqué la plupart du temps.
Ah, oui.
Mais le trouble de l'attachement, l'enfant le vit aussi dans les familles substituts où on va tenter, semble-t-il, de l'implanter, mais il ne s'attache pas tout le temps. C'est normal. Et des fois, à mon point de vue, l'enfant le plus sain, c'est celui qui est le plus réfractaire à ces plans de vie-là ou à ces attachements-là. Celui-là, il montre des signes qu'il y a de la vigueur, qu'il y a de la vie, qui est encore capable de faire des choix.
Monsieur Stoll, vous allez intervenir.
C'est-à-dire qu'il est impossible de forcer quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas?
Mais
c'est du non-sens. C'est ça, mais c'est du non-sens.
Il va lui désigner.
On force pas quelqu'un à aimer.
Non.
Impossible.
Impossible, c'est sûr.
Monsieur Favreau, j'aimerais revenir un peu à la loi sur la protection de la jeunesse.
Oui.
Vous avez dit qu'au fond, c'est une bonne loi.
Oui, à mon point de vue, la loi est...
Et qu'est-ce que vous dites de l'article...
Ça devrait être visé, ça c'est sûr. Régulièrement devrait être visé à tous les gens.
Oui, mais au fond, la loi, l'article, notamment l'article 31,
oui.
Stipule que le directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.
Oui.
Le directeur est nommé par le conseil d'administration, etc., etc.
Oui.
La dernière phrase, le directeur agit sous l'autorité directe du directeur général.
Exactement.
Directeur général, c'est comme directeur de la prison pour les enfants, n'est-ce pas? Centre jeunesse.
Oui, c'est celui qui...
C'est aussi la prison.
Le budget, c'est celui qui les embauche d'employés, c'est celui qui voit leur formation, c'est celui qui voit leur affectation et tout et tout.
Vois une parallèle, imaginez qu'un directeur d'une prison pour adultes nomme le directeur de la police et l'envoie chercher sa clientèle.
Oui, mais pire que ça, c'est comme si celui qui...
Est-ce que pour les adultes, la société l'aurait accepté?
Ben non.
Évidemment. Conflit d'intérêts aussi grossier, aussi abusif, ne pourrait pas passer pour les adultes. Et comment ça se peut que ça passe pour les enfants? Vous comprenez ma question?
Oui.
Mon point de vue,
c'est tout un parallèle, oui.
Exactement. Mais à mon point de vue, là, c'est là, au niveau de la DPJ, c'est un organisme qui est loin des familles, qui est loin des enfants. Moi, je privilégie beaucoup, dans une réorganisation, je privilégierais des services de proximité de l'enfant. D'abord, sa famille proche.
D'accord.
Ses grands-parents. Les oncles et tantes, et ensuite le voisinage, et ensuite le milieu. Et à mon point de vue, pour travailler dans ce secteur-là, dans cette optique-là, le CLSC est beaucoup mieux placé que la DPJ.
Ah oui?
Parce que le CLSC est plus près.
D'accord.
Près du milieu, puis normalement, il est plus apte aussi à mobiliser le milieu ou les ressources de proximité des enfants et des familles. Mm-hmm. Il devrait être. Du moins, c'est un petit peu dans sa définition de tâche au CLSC, de donner des services de proximité à une population ou à une société qui est plus immédiate de l'organisme que pour ce qui concerne la DPJ, qui couvre un très grand territoire. Donc, plus c'est loin de la famille et des enfants, plus les services sont impersonnels. Plus les services sont impersonnels, plus on a tendance à les standardiser avec des règlements et des politiques qui, à mon point de vue, à la fin deviennent inhumaines tellement elles sont loin.
Absolument. Actuellement, on ne laisse pas beaucoup de latitude au CLSC. Hein? De la minute que vous voyez quelque chose, vous référez à la DPJ.
Ça ne devrait pas. Les références devraient se faire plutôt de la DPJ au CLSC. Ça devrait être complètement l'inverse.
Absolument.
Le CLSC devrait être équipé pour recevoir ces demandes-là de services de proximité des familles et des enfants. Mais quand je parle d'enfants, je parle toujours de famille aussi. Parce qu'on, comme on ne plante pas une fleur dans un beau pot de terre, ben on ne plante pas un enfant quand il n'y a pas de parents.
Absolument, absolument. Madame Bouchard, vous qui entendez tout ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, moi, je vais dans le même sens que M. Favreau, parce que le docteur Lorraine Bouchard prétend que l'enlèvement parental de l'enfant, c'est un viol de sa personnalité. Mm-hmm. C'est un viol tout court. On lui enlève ses libertés pour lorsqu'il est l'âge de 18 ans, lui permettant pas de choisir. Puis ensuite de ça, la DPJ s'occupe d'isoler souvent l'enfant de son parent, de ses parents.
Oui.
Puis de sa famille, l'élargit même. Mm-hmm. Alors moi, je trouve que M. Favreau illustre très bien la situation. Je pense que vous avez un expert.
Oui.
Devrait être encore à la DPJ.
Oui. Effectivement, quand vous dites, M. Favreau, que la DPJ s'éloigne de par son système de la clientèle à qui elle s'adresse, j'ai l'impression que vous avez parfaitement raison, parce que, écoutez, si on retire un enfant de sa famille sans avoir regardé d'abord s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la famille immédiate qui peut intervenir, si personne dans la famille élargie, finalement, on se retrouve avec, comme vous dites, de l'impersonnel. Pour finir jusqu'en centre d'accueil, finalement.
Exactement. Puis d'ailleurs, l'instrument privilégié de la DPJ, c'est souvent le tribunal de la jeunesse. Et le tribunal de la jeunesse, comme un juge de ce tribunal-là m'a déjà dit, il dit, comment est-ce que tu veux que je n'accorde pas ce qu'il me demande? Je suis un peu redevable pour mon travail de la DPJ. Et souvent, c'est un avocat qui est devenu juge du tribunal de la jeunesse.
Absolument.
Après avoir été un employé de la DPJ. Mm-hmm. Souvent.
Ben oui, c'est ce qu'on remarque, effectivement. C'est ce qu'on remarque.
Allez, ils sont bien préparés, pas uniquement au niveau scientifique, mais aussi au niveau servilité, à mon point de vue, je regrette de le dire.
Monsieur Favreau, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous nous dire un petit peu quelles sont les fonctions que vous aviez occupées autrefois au sein de la DPJ?
Bon, ben moi, j'ai d'abord une formation académique qui était assez longue. Je suis allé dans les universités, baccalauréat en charge, maîtrise en sociologie, maîtrise en service social, bac en théologie, ensuite des certificats en action sociale communautaire, et puis j'ai mis sur pied plusieurs organismes communautaires, centres de bénévolat, plusieurs centres d'accueil, centres d'action bénévole, et puis au niveau de la DPJ, j'ai travaillé comme consultant, et ensuite j'ai fait un peu d'enseignement à l'Université de Montréal en sociologie de la famille, un petit peu d'enseignement à l'Université de Sherbrooke en sociologie de la délinquance, surtout des jeunes contrevenants. Et puis, j'ai servi de pas mal, plusieurs années de consultant. Mais malheureusement, le système ne favorisait pas toujours l'utilisation d'un consultant. Par exemple, moi, je préconisais que quand on présente un dossier pour faire entériner par un juge, il devrait y avoir eu un comité d'experts en sciences humaines auparavant qui travaille tout le dossier et puis qui élabore les principales solutions les plus avantageuses pour la famille et pour l'enfant. Parce que quand je parle d'enfant, c'est toujours y incluant sa famille de façon plus ou moins explicite.
C'est intéressant ce que vous dites. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est ce que vous auriez préconisé, mais actuellement, on pense souvent que que la DPJ prend le temps de faire une analyse approfondie d'un dossier avant de l'amener devant le juge, que des experts sont penchés, qu'il y a eu une analyse du cas, qu'on a regardé vraiment tous les tenants et les aboutissants, qu'on a regardé au plan psychosocial de façon très particulière. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que l'analyse n'est pas si sérieuse que ça, là, avant qu'on se retrouve devant le juge. Là.
Elle n'est tellement pas si sérieuse que ça que si je vous demandais, par exemple, iriez-vous voir un chirurgien qui est plutôt un plombier? c'est un peu souvent ça.
Ouais.
La DPJ, ils ont beaucoup d'employés, puis même des employés cadres, donc qui ont des pouvoirs de direction, qui ont une formation en criminologie.
Mm-hmm.
C'est pas un service social, c'est la criminologie.
Effectivement.
Et un grand nombre ont simplement un DEC en action sociale.
Mm-hmm. Quand c'est en travail social.
Formation.
C'est ça, parce que ça peut être en administration aussi. On a vu toutes sortes de choses, entre autres chez les ARH, les agents de relations
sociales. Ça, c'est ARH. Ça, c'est un fourre-tout.
Oui, hein?
Oui, ça, c'est l'appellation fourre-tout. Mais ça, c'est beaucoup plus pour application des budgets. Les syndicats, ah, ouais. Puis les budgets, des choses comme ça. On a des ARH. Parce que souvent, ça couvre ceux qui n'ont pas de diplôme du tout.
Absolument. Et d'une certaine façon, ça les protège un peu aussi, parce qu'ils sont pas attaquables.
Ben non. Mais d'autant plus que la loi les protège beaucoup, parce que la sainte confidentialité,
oui.
Ensuite, la destruction des dossiers qui se fait après 5 ans, où on a fermé le dossier. Donc, à ce moment-là, si vous arrivez pour faire de la recherche sur ce qui s'est fait, quelles ont été les principales tendances des dernières années, ben vous êtes bien malheureux, mais vous ne trouvez pas le matériel qui vous serait utile pour faire la recherche. Moi, la recherche, j'aurais été intéressé d'en faire comme sociologue.
Ah oui.
On aime bien fouiller et questionner non seulement l'action présente, mais aussi les parcours suivis pour nous conduire à l'action présente.
Bien sûr, j'imagine. J'imagine. Mais vous dites que ces données-là ne seraient plus disponibles après 5 ans?
Seulement, ils sont détruits.
Ah oui, comme dans le cas des dossiers de professionnels, finalement, comme dans le cas des dossiers de psychologues ou de travailleurs sociaux reconnus, ou psychoéducateurs reconnus par un autre professionnel après 5 ans, bon, le dossier peut être détruit. Vous nous dites qu'à la DPJ, c'est la même chose aussi, là, même quand c'est pas un dossier de professionnel. Ah oui. Vous en pensez quoi, M. Stone?
Même s'il n'était pas encore détruit, s'il y avait eu négligence ou délai, bien, ils sont protégés par le sceau de la confidentialité, la sainte confidentialité.
La sainte confidentialité.
De faire bien des bourdes et puis d'être à l'abri à ce moment-là de toute poursuite.
C'est ça.
Historiquement parlant, la loi a été spécifiquement conçue pour déresponsabiliser l'État de ses bourdes, de ses maltraitances des enfants. On sait que la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse a été adoptée suite à un scandale de maltraitance des enfants en 1975 au Québec. Suivi de l'enquête de la commission Emmanuel Batchot.
Oui.
Ça vous dit quelque chose? Et la nouvelle loi a été adoptée par le Parti québécois. Madame Marois était dedans en 77 et mise en application en janvier 79, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
L'article qui protège ou qui garantit l'immunité, l'impunité des intervenants est dès le début implanté dans la loi.
Oui, oui.
Pourtant, cet article en soi déroge à la Constitution canadienne des droits de Constitution canadienne, à la Charte canadienne des droits et de liberté, n'est-ce pas?
Oui, mais ça, je pense qu'elle n'a jamais été testée devant le tribunal.
Ah non?
Ah. Ça n'a jamais été testé. Non, les tribunaux au Québec, au Canada, participent à cette farce.
Oui.
Imaginez, il y a un juge qui a écrit, qui a un juge Denis Saulnier, qui a écrit « Il faut décider si le droit d'un enfant on était lésé en évitant le piège d'analyser l'intervention du DPJ de façon rétrospective. Vous comprenez cette phrase?
Mais c'est simplement encore c'est la confidentialité qui protège le DPJ.
C'est ça.
De toutes les maladresses ou de toutes les bourdes qui
l'ont fait. La sainte confidentialité.
Imaginez, vous ne pouvez pas analyser, selon les juges, selon la justice, le comportement DPJ en analysant son comportement rétrospectivement.
Ben,
c'est quoi ça? C'est vraiment une farce.
Les journalistes n'ont pas le droit non plus d'entrer là-dedans. Ils ont
oui,
pas de prise,
oui,
pour entrer là-dedans pour éventuellement aller faire une exploration ou d'inspection, disons, de la façon dont cette loi-là a été appliquée.
Est appliquée.
Parce qu'à mon point de vue, c'est pas tellement la loi que je critique, que je questionne, mais c'est son application. Son comment est-ce qu'elle est appliquée? Il y a beaucoup trop de laisser-faire.
Mais, désolé, M. Favreau, de vous interrompre. C'est toujours, si la loi est mal ficelée, si la loi déroge déjà à la loi principale, c'est-à-dire à la charte ou à la loi qui constitue le pays, la loi constitutionnelle, vous avez déjà un dérapage majeur. Et le comportement des abus de pouvoir, etc., ce n'est qu'une conséquence de cette loi. Alors, je suis intimement convaincu, et je peux le démontrer assez facilement, que la faute relève directement de la loi sur la protection de la jeunesse et non pas de son application.
Oui, d'ailleurs, je peux peut-être vous donner une petite information.
Allez-y.
Il est question que mon livre, Janus, là, l'autre visage du système québécois de protection de la jeunesse, soit traduit en anglais et envoyé aux États-Unis. Il est question qu'il soit traduit en chinois.
Ah oui, très bonne nouvelle.
Oui, en Chine. Parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, de toute façon, moi, je le laisse faire. C'est pas moi qui pousse là-dessus. C'est un groupe qui s'est constitué puis qui dit non, ça, faut pas que ça reste là. Alors, si c'est bon pour les autres, ça va pas l'air bon pour le Québec parce que j'ai pas eu beaucoup d'efforts de demandes de questionnement par le gouvernement du Québec.
Ouais. Comme on dit, on n'est jamais prophète dans son pays. Hein?
C'est ça, je pense d'ailleurs, je l'ai vécu quelquefois.
Oui. Mais quelqu'un qui s'est intéressé à acquérir votre livre Jeunesse, l'autre visage du système québécois de la protection de la jeunesse, peut procéder comment?
Moi, j'en ai encore un certain nombre.
Oui. Est-ce que les gens prennent contact avec vous? Est-ce qu'il y a des coordonnées qui peuvent être fournies pour l'obtention de ce livre-là?
Il y a une dame qui, au moment donné, est venue en chercher une vingtaine.
Oui.
Si quelqu'un voulait faire constituer un dépôt, j'en ai un certain nombre à disposition.
Monsieur Favreau, ce livre n'existe pas en format numérique?
Pardon? En format numérique, ça, je ne sais pas.
Ah, OK, vous occupez pas de ça. Hein?
Ouais. Mais ça peut être intéressant qu'il le soit éventuellement. Mais il reste que si nos auditeurs intéressés par votre volume désirent se le procurer, ils peuvent évidemment nous écrire à DPJ Radio Centre-Ville à commercial@hotmail.com.
Ou contacter Mouvement Action Justice.
Ou contacter le Mouvement Action Justice. Et puis, en ce moment-là, on pourra les mettre en contact avec vous pour que vous puissiez leur procurer ce livre de référence qui est vraiment une petite mine d'or. C'est vraiment un bijou. Quand on le lit, là, on découvre un monde plus qu'intéressant, je dirais.
En fait, il est succinct, puis j'ai voulu le mettre clair et compréhensible par tout le monde.
Et il est effectivement très clair. Vous avez parfaitement raison là-dessus. Maintenant, je voulais vous poser une certaine question. On parlait de la compétence des intervenants tout à l'heure. Vous avez fait la démonstration que cette compétence-là était loin d'être d'être évidente. Là. Par contre, vous penseriez quoi d'une imputabilité des interventions des intervenants de la DPJ? À savoir qu'on les rendrait imputables de leurs gestes dans le quotidien de leurs actions. Votre point de vue là-dessus, ce serait quoi?
Moi, je trouve que ça serait vraiment rendre donner des responsabilités à des praticiens qui ne sont pas nécessairement les premiers responsables. Il y a des dirigeants d'organismes, des dirigeants de DPJ qui sont censés voir à l'embauche du personnel, donc à choisir le personnel le plus apte à remplir la tâche, et puis qui sont chargés aussi d'assurer leur formation permanente. Parce que moi, j'ai vu bien des intervenants qui n'ont jamais mis le nez dans une page de livre pour ajuster leur formation. Mm-hmm. Puis d'autres, si vous voulez. Une formation en criminologie, c'est pas une formation en service social.
Absolument pas.
Un DEC aussi, c'est pas une formation universitaire en service social.
Ouais.
Et puis, un retour à l'université, là, c'est pas une mauvaise chose de temps en temps d'aller se retremper un petit peu, là. Ou encore de fréquenter des bibliothèques. C'est pas interdit.
C'est ça. Un bon perfectionnement, ça fait pas mal à personne. Principalement si on doit poser des gestes qui sont lourds de responsabilité.
C'est ça. La plupart des professions, d'ailleurs, exigent que leurs membres soient régulièrement remis à jour.
Absolument.
Oui, c'est la responsabilité, à ce moment-là, des dirigeants de voir à mettre à la disposition de leur personnel les ressources nécessaires pour qu'ils puissent qu'ils les motivent.
Mm-hmm.
Et puis qu'ils mettent les ressources nécessaires pour qu'ils puissent se maintenir à jour continuellement. Parce qu'en sociologie, on apprend qu'une société, ça vit, hein? C'est comme un organisme, ça évolue aussi. Alors, il y a des valeurs qui sont remises en question, d'autres qui sont mises en vedette, et d'autres qui sont retirées. Alors, à ce moment-là, c'est clair que les valeurs qu'on peut avoir acquises, qu'on peut détenir soi-même, s'ils ne sont pas re-questionnés, risque à ce moment-là de nous faire des gestes qui sont inadéquats quand on travaille dans le domaine de la protection de la jeunesse.
Absolument. Madame Bouchard, j'aurais le goût de vous entendre sur la compétence des intervenants. Vous en pensez quoi? Concernant la compétence des intervenants de la DPJ, dans votre pratique, compte tenu de ce que vous avez vu, vécu, vous en pensez quoi?
Moi,
Et vous souhaiteriez quoi?
mais je suis pas une experte, là. Mais j'ai côtoyé les travailleurs sociaux, évidemment.
Mm-hmm.
Puis j'en ai vu des travailleurs sociaux consciencieux. Mais je vous l'ai dit, c'est une denrée rare parmi le personnel.
Ouais.
Même cette première sociale-là m'a avoué, je l'ai rencontrée quelques années plus tard, elle m'a avoué que non, elle ne travaillait plus à la DPJ. Puis là, je l'ai questionnée, je lui ai dit pourquoi pas. Elle dit mon cœur de mère ne peut plus supporter le fait d'enlever des enfants aux familles.
Mm-hmm.
Carrément comme ça.
Mm-hmm.
Alors, y a beaucoup de travailleurs sociaux qui sont compétentes, mais qui quittent justement pour des raisons comme ça.
OK. Mais qui doivent rentrer dans le moule.
Oui.
C'est ce que vous êtes en train de nous dire, dans le fond.
Exactement.
Ils ont beau avoir certaines compétences, ils doivent entrer dans le moule s'ils veulent demeurer à la DPJ.
Exactement.
Et après un certain temps, peut-être piler même sur leurs valeurs. Les mettre de côté pour adapter les valeurs de l'organisation.
Ce que certains refusent souvent, mais il y a beaucoup de mouvements dans le personnel.
Mm-hmm.
Une travailleuse sociale travaille sur un dossier. Alors, vous en avez, à un moment donné, vous êtes rendu à la troisième, et etc. C'est la situation. Parce que les gens, souvent, les gens ne résistent pas à tout ce poids-là. Parce que les gens voient que briser une famille, certaines travailleuses sociales, je ne dirais pas tous, là. Mais de briser une famille, puis de priver l'enfant de ses parents, c'est une chose, particulièrement si la travailleuse sociale est mère. Alors, c'est une chose que, dans leur pensée, ils ne peuvent pas persister dans leur travail, alors ils décident de quitter. Alors, c'est pour ça. Puis, je voulais ajouter que souvent, sur la fermeture de dossier, c'est un article de loi, la loi 125, là, qui est devenue le projet de loi 125 est devenu une loi.
D'accord.
La mère est fichée. Mais si jamais la mère, alors j'avais 23 ans, depuis enceinte, elle va consulter un CLSC alors le CLSC communique immédiatement avec la DPJ parce que eux ont les. On trouve la liste, en tout cas, la DPJ envoie une liste de personnes susceptibles d'être en fait.
À risque.
La DPJ s'occupe de leur dossier. Alors, lorsque la mère accouche, le lendemain, la DPJ est sur place pour prendre les enfants. Alors, je me demande comment non, la BDPJ peut-elle juger que la mère est innable à garder son bébé? Alors, vous voyez ça, c'est courageux de recevoir des témoignages, nombreux témoignages sur ce sujet-là. Alors, il faudrait que ce soit enquêté.
C'est assez particulier, hein? Parce que, comme disait M. Favreau, le dossier est supposé être fermé après 5 ans, mais il semblerait que les personnes qui sont passées par la DPJ, qui ont été en centre d'accueil, sont, si vous passez l'expression, taguées.
Oui.
DPJ, et le jour où ils ont eux-mêmes un enfant, on découvre une trace du fait qu'il est passé par la DPJ et ils deviennent à risque à ce moment-là.
C'est le plus clair signe.
Oui, M. Favreau?
C'est le signe le plus clair là, que la DPJ a manqué son coup. Parce que c'est comme si elle signait son incompétence.
Absolument.
Un enfant qui est passé par ses services et puis qui est considéré tout de suite inapte à avoir elle-même des enfants.
M. Favreau, concernant votre reproche aux compétences, vous dites que les criminologues ne peuvent pas agir en tant qu'intervenant social, évidemment.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas agir, je dis qu'il y en a trop. Il y a beaucoup trop de criminologues. Un criminologue, en fait, est formé pour travailler avec les délinquants.
La formation n'est pas adéquate.
Et contrevenants.
Oui.
Puis, d'ailleurs,
le problème, pourquoi il y a des criminologues? Le problème, c'est que la DPJ agit aussi en vertu de la loi sur les délinquants juveniles.
Ne devrait pas. Ça, c'est un mélange des gens.
C'est ça. Alors, la DPJ possède un monopole, tout ce qui a trait à la jeunesse, aux enfants, l'adoption internationale, regard criminel sur les agissements des délinquants, etc.
La loi des jeunes contrevenants devrait relever du ministère de la Justice.
Absolument, mais vous voyez, dans tous ces mélanges-là, on voit que le système ne fait que se protéger lui-même.
Exactement.
Il s'en fout complètement des enfants.
Ben, à mon point de vue.
Ouais.
Parce que moi,
pas juste de votre point de vue, de point de vue tout à fait objectif, imaginez, M. Favreau.
Plusieurs sont d'accord avec vous.
En 92, il y avait une commission ou groupe de travail sur l'évaluation de la loi sur la protection de la jeunesse qui était présidée par le juge en chef adjoint de la Cour du Québec, M. Michel Jasmin. En soi, le fait qu'un juge se mêle dans le processus législatif est complètement illégal et anticonstitutionnel, et pourtant ça marchait. Et c'est M. Jasmin, avec son groupe de travail, qui a stipulé et qui a empreint le caractère d'exception à la loi sur la protection de la jeunesse. Et depuis, on dit ouvertement, quand les intervenants se pointent dans une famille, et j'en étais témoin plusieurs fois, et il y a beaucoup de documents, on annonce toujours la loi sur la protection de la jeunesse est une loi exceptionnelle. Il prétend que ça ne touche que les cas exceptionnels, etc. Mais la loi d'exception, ça veut dire que la loi déroge aux droits fondamentaux garantis par la Charte.
Que penseriez-vous, vous, là, d'un directeur de prison qui va recruter ses clients lui-même?
C'est exactement ça.
C'est
ce qu'on
disait
tout à l'heure, effectivement.
Pour
c'est un non-sens.
Pour agrandir sa prison. C'est un peu ce que la DPJ fait. Dans le fond, plus elle va chercher le monde, plus elle enlève d'enfants, plus elle a un gros budget.
Absolument.
Alors, qu'est-ce que tu veux? Il y a comme une espèce de non-sens là-dedans.
Oui.
C'est, elle recrute elle-même sa clientèle pour augmenter ses budgets. Alors,
et imaginez, M. Favreau, c'est rendu si gros et si chaud ce problème que 10 jours avant l'entrée en vigueur de la loi sur les crimes contre l'humanité, la loi est entrée en vigueur le 23 octobre 2000, alors le 13 octobre 2000, la Cour suprême du Canada a rendu le jugement Winnipeg contre KLW, où la Cour suprême du Canada a suspendu ou anéanti complètement les garanties juridiques aux parents et à l'enfant dans le contexte de protection de la jeunesse. La Cour suprême a autorisé le pouvoir arbitraire de DPJ, c'est-à-dire le DPJ, selon la Cour suprême du Canada, peut agir en tant qu'enquêteur, en tant que juge de son propre enquête et exécutant de son jugement.
Oui, c'est particulier.
Non, c'est pas particulier.
C'est très particulier.
On voit que si on voudrait vraiment imputer les responsabilités de petits intervenants, on devrait aller vraiment jusqu'à la tête et frapper la tête pour les crimes contre l'humanité.
Exactement. D'ailleurs, moi, il y a une statistique qui est bien claire, puis c'est sec, une statistique. Hein? Moi, j'ai travaillé avec des statistiques comme sociologue qui démontre qu'il y a plus d'enfants placés au Québec que dans n'importe quelle des autres provinces.
Absolument.
Le tiers des enfants placés au Canada proviennent du Québec.
Absolument. Vous avez parfaitement raison. C'est une statistique
Mais
qui est très juste.
Imaginez le travail de propagande des DPJ et de notre gouvernement est si fort qu'il y a presque autant de signalements des enfants prétendument maltraités ou dont les droits sont lésés dans la famille. Il y en a presque autant que de naissances d'enfants au Québec, autour de 80 000 d'enfants, 88 000. Mais imaginez ça, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Alors, tous les enfants, les parents n'ont plus aucune compétence, c'est l'État qui a toutes les compétences.
Ouais,
c'est à peu près ça leur vision.
Il n'y a pas d'école pour devenir parent, mais il pourrait y avoir
y a personne de parfait
pour les parents. Maintenant, c'est sûr que quand il y a un problème qui se pose dans une famille, aussi, avant de dématipuler et de charcuter la famille, on pourrait regarder ouais, si on ne pourrait pas faire d'autre chose. C'est comme si vous avez mal à un orteil et on vous coupe la jambe.
C'est ça.
Oui.
C'est
mais ça. dans le bilan de l'an 2005, la DPJ mentionne, ou les centres jeunesse, l'Association des centres jeunesse du Québec, eux mentionnent que la DPJ n'est pas porte d'entrée pour les services à la famille qui ont besoin de certaines qui éprouvent certains problèmes parce que ça engorge le système. Imaginez. Ouais. Donc, c'est pas une porte d'entrée.
Parce que la porte d'entrée devrait être le CLSC.
Oui, comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais.
Oui, oui.
Non, mais
c'est très, très important parce que le CLSC est plus près.
Ce que je voulais dire, c'est qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas là pour aider la famille. Eux, ils sont là pour, en tant que police, en tant que Gestapo. Je me permets ce comparatif avec Gestapo parce que Gestapo était un organisme le plus connu dans l'histoire humaine qui avait un mandat permanent d'arrêter et emprisonner des gens sans aucune forme de jugement. Le DPJ fait exactement la même chose.
C'est pour ça, à mon point de vue, c'est beaucoup de pouvoir donné. Parce qu'ils peuvent prendre 24 heures, puis ils peuvent ensuite aller demander une prolongation, puis ensuite 3 jours, puis ensuite présenter devant le tribunal. Mais c'est eux autres qui présentent l'image de la situation devant le tribunal. Alors le juge, ben mon Dieu, très souvent, là, il va obtempérer, simplement. Il va dire, ben le DPJ, ce sont des experts ou des pseudo-experts. Et c'est pas tout le temps qu'il y a une bande d'ignorants là-dedans aussi.
Exactement. Mais en terminant, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, on parlait tout à l'heure de l'argent qui est récupéré par les DPJ compte tenu du nombre de dossiers qu'ils ont. À l'époque où vous y étiez, quel était, selon vous, le budget approximatif de la DPJ? Que nous coûte le système de protection de la jeunesse au Québec? À l'époque, là, c'était quoi? Approximativement.
Je ne pourrais pas dire parce que moi, je ne me suis jamais tellement préoccupé du budget. Je m'occupais du monde. Ouais. En particulier des enfants et des familles.
Ouais.
Et puis, à ce point de vue-là, j'étais pas un employé très, très fidèle à dire on va faire le plus grand nombre de placements possible parce que c'est ça qui va nous permettre de demander des budgets au Québec et en province.
Ouais.
À mon point de vue, ça, c'était la dernière des préoccupations. C'était même pas la mienne, c'était ce qui me répugnait le plus. Parfait. Pour moi, le service qui doit être donné, c'est d'abord un service de professionnel, puis avec du cœur.
Avec du cœur.
C'est plus important que l'argent.
Écoutez,
mais il y a quelques années, on a parlé de 700 millions centre jeunesse, et puis d'autres 700, 800 millions il y a 2-3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça.
Et là, pour l'instant,
1,5 milliard de dollars, le système de protection de la jeunesse au Québec.
Oui, mais en fait, c'est qu'on mêle tout. Là. Okay. C'est comme les centres d'accueil. Il y a des centres d'accueil qui ont des jeunes contrevenants, puis qui ont aussi des jeunes à
Absolument.
Poser protection. C'est mélangé ensemble.
Je m'excuse, M. Favreau. On doit terminer. On nous dit qu'il nous reste plus de temps. Ce fut excessivement intéressant de vous avoir avec nous. Je vous remercie. Je remercie Mme Bouchard aussi. Or, chers amis, merci. C'est vraiment... tout le temps nous disposions. Espérant que notre émission vous a plu, nous vous invitons donc à notre prochain rendez-vous en mars prochain, le dernier vendredi. Donc, je remercie encore Mme Bouchard, je remercie M. Favreau, M. Stoll. Ce fut un grand plaisir de vous accueillir à l'émission. J'espère que nous aurons la chance de pouvoir collaborer à nouveau.
Bonne journée à tous.
À la prochaine.
Voici pour commencer quelques racketeurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune.
Envie de vous faire connaître? Besoin d'un coup de pouce publicitaire? Radio Centre-Ville vous offre la possibilité de rejoindre notre public multiculturel et multilingue. Français, anglais, espagnol, portugais, créole, grec, cantonais et mandarin. Un éventail commercial dont vous ne pouvez pas vous passer. N'attendez plus et profitez de nos 40 ans d'expertise. Pour information, contactez dès maintenant Christina 514-495-8836 ou visitez www.radiocentreville.com.
Vous préparez votre dossier pour la résidence permanente ou vous faites votre demande de citoyenneté? Vous devez présenter le TEF professionnel, TEFAC ou TEF Canada? Une seule adresse à Montréal, ALC Montréal, 514-844-4849. Appelez dès maintenant au 514-844-4849 ou visitez-nous au alcmontréal.com et réservez votre place. On vous attend!
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts.
Radio Centreville,
102,3 FM, un monde différent.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.